Voilà, bonjour à toutes et tous. Vous allez voir que j'ai légèrement modifié la problématique de mon intervention. Alors, on commence avec une jolie vue de la BPI, un peu automnale, de l'extérieur. Donc l'idée, c'est de partir en gros de notre dernière collecte de données sur les publics qui fréquentent la BPI, puisqu'elle a eu lieu tout récemment, au début du mois de novembre 2015. Et donc je vais faire le point sur un certain nombre d'indicateurs, mais je vous ferai grâce de l'avalanche de données statistiques, hein, puisque le questionnaire pose environ une centaine de questions. Nous avons recueilli 1836 réponses, donc on a en gros plus de 150 000 enregistrements de données. Donc je vais faire un tri très sélectif pour essayer donc d'essayer de voir aussi quelles sont les grandes tendances qui peuvent d'ailleurs se généraliser à d'autres établissements de lecture publique. Alors on verra d'ailleurs dans quelle mesure on peut effectuer ou pas d'ailleurs des comparaisons. Ce qui me permettra de revenir aussi sur l'historique des enquêtes à la BPI. Alors, j'avais prévu initialement dans mon intervention de prendre la chronologie début des années 2000 jusqu'à donc novembre 2015. Et puis en fait, chemin faisant, ça me paraissait intéressant de remonter encore plus loin et de jeter un œil aussi sur les toutes premières enquêtes de public à la BPI. Voilà, donc je ferai des comparaisons dans la mesure du possible avec d'autres établissements de lecture publique. Et je voudrais aussi que mon intervention puisse nous permettre collectivement de porter un regard bienveillant, mais critique aussi hein, sur les méthodologies que nous employons pour produire des données en ce qui concerne l'activité de nos établissements. Voilà. Donc, traditionnellement, je commence toujours par un petit point de méthode hein, pour que vous puissiez bien comprendre comment les données sont produites et ce qu'on peut en dire et ce qu'on ne peut pas aussi en dire, puisqu'on va voir qu'il y a quand même aussi des limites interprétatives. Donc, ce point de méthode, je voudrais le faire sur la question de la représentativité, approcher sous un angle double, à la fois la représentativité en matière de terrain d'étude et puis ensuite la représentativité en matière de production de données, de méthodologie d'enquête. Voilà, on pourrait assez facilement parvenir à la conclusion que la BPI est une bibliothèque tout à fait singulière, quasi unique en son genre. J'étais amusé tout à l'heure quand Fabien Plazanet présentait ce graphique en ce qui concerne les horaires d'ouverture sur la semaine, hein, du lundi au dimanche. J'aurais tendance à dire, pour la BPI, c'est relativement simple, tout est presque rouge, sauf les matinées, bien sûr, puisque l'établissement ouvre à midi et à 11h le week-end. Et sauf le mardi, hein, puisque le mardi, c'est le jour traditionnel de fermeture. Sachant que tous les jours, la BPI, en revanche, est ouverte jusqu'à 22h. Donc on va voir qu'elle a quand même des points de singularité assez évidents, très marqués, mais qu'en même temps, et en matière même parfois de services, mais surtout en matière d'usage, de réponse des publics, on va voir aussi qu'on peut lui trouver pas mal de points communs avec une grande partie des établissements de lecture publique, avec les plus grands en particulier. Donc, ces caractéristiques de la BPI, pour aller très vite, hein, voilà, c'est une bibliothèque nationale, c'est une bibliothèque de consultation sur place, voilà une grande différence quand même avec l'ensemble des bibliothèques dont parlait Fabien Plazanet précédemment, hein, puisque là, il n'y a pas de prêt à la BPI. Hein. Historiquement, la BPI s'est engagée à ne pas faire de prêt, notamment pour ne pas concurrencer le réseau de la ville de Paris. Hein, voilà. Et elle est une bibliothèque de consultation sur place. Donc, que se passe-t-il quand on propose, pour les monographies par exemple, plus de 300 000 documents sur place, sur cette amplitude horaire extrêmement étendue? Donc, que se passe-t-il en matière de réponse des publics? On va voir qu'on peut faire pas mal de comparaisons avec le Haut-Jardin de la Bibliothèque nationale de France sur le site Tolbiac. La BPI, vous le savez, j'en donnerai une mesure beaucoup plus fine chemin faisant, est une bibliothèque majoritairement fréquentée par un public étudiant, mais on va voir qu'on peut étendre d'ailleurs ce constat pour parler d'un public majoritairement studieux. Et par conséquent, ça tend, là, par certains côtés, peut-être pas vraiment au niveau des collections et des services, mais en tout cas en matière de fréquentation, à rapprocher un peu la BPI des bibliothèques universitaires. Je tiens à rappeler, après avoir fait ces deux précisions, que la BPI, c'est malgré tout 1 300 000 entrées annuelles cumulées en 2015. Je parle d'entrées, hein, je ne parle pas d'entrants, hein, je parle de visites et pas de visiteurs, là. C'est plus de 4 000 entrées par jour, ce qui sous-entend, on va le voir précisément, hein, des profils d'usagers et des profils d'usage particulièrement différenciés. Avec d'ailleurs, vous le verrez, c'est tout à fait classique, hein, d'autres enquêtes le montrent sur d'autres terrains, des profils d'usage qui sont étroitement liés au profil des visiteurs, au profil des usagers. Et on va voir qu'ils sont plus différenciés qu'il n'y paraît quand on regarde de près les chiffres de la BPI, et que par certains côtés, la BPI peut également être rapprochée des bibliothèques municipales et en particulier des grands établissements. Voilà. Ce qu'on va pouvoir vérifier assez rapidement, en tout cas, et ce qui confirme cette ambition, hein, que Jean-Pierre Seguin, le créateur de la BPI, formulait pour l'établissement qui sortait de terre à la fin des années 70, c'est que la BPI ressemble, en tout cas, pas mal à ce qu'il appelait, lui, ce que je trouve une formule assez fleurie, assez jolie, une université sans mur et sans enseignants. Sur la question de la représentativité des données et sur la question des protocoles d'enquête que nous utilisons donc pour produire nos indicateurs. Je rappelle donc que notre dispositif repose sur une série de mesures qui sont régulièrement réalisées et que la toute première enquête de public à la BPI date de 1978, juste après l'ouverture en 77. Ce qui sous-entend que le questionnaire que nous utilisons aujourd'hui pour la 11e édition en novembre 2015, ce questionnaire reprend l'architecture initiale du questionnaire qui a été forgé à la fin des années 70. La méthode utilisée, c'est donc le sondage aléatoire. On parle même en statistique d'un sondage aléatoire simple, hein, qui permet d'interroger au hasard, avec un pas de tirage défini au préalable, des personnes qui quittent définitivement l'établissement. Et cet outil nous permet... contre toute attente, par certains côtés, puisque je viens de dire que le public était très diversifié, mais qu'il y avait, ce que je n'ai pas signalé aussi, c'est qu'il y a une saisonnalité de la fréquentation qui est assez étonnante à la BPI. Et malgré tout, en tout cas quand on reproduit l'enquête à des moments bien précis, on s'aperçoit qu'on obtient régulièrement des indicateurs très robustes. Et c'est-à-dire qu'on peut suivre leur évolution dans le temps, voire également voir ces indicateurs se répéter de façon assez fine d'une enquête à l'autre. Le questionnaire est administré en face à face, en sortie définitive, c'est très important, il ne s'agit pas d'un questionnaire auto-administré, donc avec un échantillon qui se construirait lui-même. Là, il y a vraiment ce sondage aléatoire et cette administration du questionnaire où l'enquêteur s'efforce, à travers cette interaction de face à face, hein, de traduire parfois les questions, de repréciser des questionnements, et on va voir que c'est un enjeu très fort, ça, aujourd'hui. De l'ouverture à la fermeture de la bibliothèque, pendant 6 jours, donc comme je le disais, au mois de novembre, du lundi au dimanche. Alors, petit point de méthode et premier élément critique. Donc, comme je le disais, pour faire des comparaisons à travers le temps, nous nous sommes efforcés, un petit peu comme l'enquête pratique culturelle des Français dont j'aurai l'occasion de reparler, de ne pas trop modifier certains questionnements. Mais de 78 à 2015, c'est ce qui fait aussi que parfois nous sommes un peu prisonniers de certaines formes de questionnement. J'y reviendrai. Donc le questionnaire, effectivement, est plutôt centré sur l'institution et sur son offre. Au départ, l'institution cherchait aussi à vérifier comment l'offre était ou n'était pas appropriée. Et on va voir aujourd'hui que l'écart est encore plus grand aujourd'hui qu'à la fin des années 70. Dernier petit point méthodologique aussi, mais qui nous pose bien des problèmes. Nous avons un questionnaire dans le cadre de cette enquête quantitative qui peine à bien représenter les nouveaux services numériques que propose la BPI. Alors j'y reviendrai, qu'il s'agisse par exemple de l'application Affluence qui permet d'évaluer le temps d'attente avant de venir à la BPI, ou qu'il s'agisse d'autres services un peu plus qui manquent de visibilité, mais qui sont difficiles aussi à traduire dans un questionnaire. Les livres numériques que possède la bibliothèque, mais aussi ces ressources électroniques, ces bases de données, voire ce qu'on appelle aujourd'hui à la BPI le Wi-Fi documentaire, dont j'aurai l'occasion de vous reparler aussi. Ça, c'est compréhensible par les bibliothécaires qui travaillent dans l'établissement, rarement en fait par les usagers qui n'ont pas passé de diplôme pour bien comprendre aujourd'hui les questions qu'on leur pose. Donc on va voir que là aussi, on a quelques petits soucis et quelques difficultés. Alors, un petit peu de lumière donc sur cette masse de fréquentants, hein, donc sur les publics de la BPI. Question profil et question modalité de visite aussi. Donc on va voir que cette première diapositive est souvent ce qu'on pourrait considérer un petit peu la boîte noire. Elle structure tout un tas d'autres données qui vont découler du fait qu'aujourd'hui, effectivement, les étudiants sont encore majoritaires dans l'établissement, à 63%, comme vous le voyez. Et que les lycéens, puisqu'il y a quasiment en novembre très très peu de collégiens, à peine 1%, donc ça n'entre pas dans le graphique, représentent 5% des fréquentants. Et les actifs et actives occupés, au sens de l'INSEE, donc tout de même 20% des fréquentants. Pour vous donner un ordre d'idée, faire tout de suite un parallèle vers le Haut-Jardin de la BNF, je parle bien du Haut-Jardin, je ne parle pas des salles réservées du Rez-de-Jardin. En 2013, c'est 80% d'étudiants, hein, le Haut-Jardin. J'indique quelques rappels aussi qui me paraissent importants. En 1978, les étudiants, c'était déjà 48% hein, des publics de l'établissement. En 2003, c'était 71%, ce qui veut dire que la progression était très forte de 78 à 2003 et qu'aujourd'hui, nous sommes parvenus à une forme de stabilisation, voire à un léger reflux même de la présence étudiante à la BPI. Dernier petit point, je prélève une statistique minoritaire. 7% des personnes interrogées en novembre 2015 déclarent être en recherche d'emploi, donc pourcentage minoritaire. Rapporté au nombre d'entrées jour, ça fait quand même 300 personnes jour. Donc pour finir, et là je vous invite aussi à lire les statistiques que je présenterai avec ce double regard, effectivement il y a des pourcentages faibles, mais qui dans les filets finissent par faire des entrées cumulées assez importantes. Alors, parité relative entre hommes et femmes. Donc vous voyez que j'ai essayé de laisser de côté le bleu et le rose layette hein, pour des couleurs un peu moins stéréotypées. Parité relative homme-femme. Effectivement, si on regarde la bandelette supérieure, hein, on voit que 52% de femmes, 48% d'hommes. Donc il y a vraiment dans les chiffres, en tout cas dans les données cumulées et exprimées sous la forme de moyenne, il y a une forme de parité, mais qui en fait cache des disparités très fortes en fonction des profils de visiteurs. Il y a par exemple 67% de femmes ou de jeunes femmes parmi la population des lycéens et lycéennes, 60% parmi les étudiants, donc là, elles sont bien majoritaires. Et en revanche, chez les actifs, les chercheurs d'emploi et chez les retraités et les autres inactifs, les femmes sont minoritaires. Et ça, depuis toujours à la BPI. On enregistre cette disparité depuis l'origine. Alors, il faut ajouter à cette variable une autre variable qui est intéressante, c'est le type de visite selon le fait que vous veniez accompagné ou pas à la bibliothèque. Effectivement, on voit qu'il y a des différences très fortes. 62% des lycéens et lycéennes déclarent venir accompagnés, 40% des étudiants et étudiantes, seulement 13% des actifs et actives, et seulement 3% des retraités. Donc, Il y a évidemment un lien de cause à effet, sans doute, entre cette modalité de visite et la parité qu'on peut trouver dans l'établissement. C'est-à-dire que la BPI demeure un espace public, en tout cas pour les usagers non scolaires au sens très large, un peu marqué du sceau du masculin, ce qui, en revanche, là, est inverse à ce qu'on peut trouver dans les bibliothèques municipales, mais qui pratiquent l'emprunt, à la différence de la BPI. Nationalité et lieu de résidence, données importantes aussi, hein, en 2015, donc on compte 65% d'usagers de nationalité française, ou on ne compte que 65% d'usagers de nationalité française, 27% d'usagers de nationalité étrangère, et 8% d'usagers déclarant une double nationalité, dont la nationalité française. Et ça, c'est aussi une proportion d'usagers qui a considérablement augmenté au cours des 10 et 15 dernières années. Près de 4 usagers sur 10, ce qui mérite d'être signalé, déclarent parler une autre langue que le français au domicile, en plus du français. Mais voilà, là aussi, ça nous permet de typer un petit peu la fréquentation de la BPI, de la caractériser. En 2015, on compte 51% d'usagers résidant à Paris, 43% en banlieue. C'est une proportion qui a considérablement augmenté avec le temps. 2% en région, 4% à l'étranger. Et une personne sur deux résidant en banlieue, donc 50% des usagers déclarant résider en banlieue, déclare parler une autre langue que le français à son domicile. Voilà encore une donnée qui permet de caractériser la BPI par rapport à d'autres établissements et notamment d'autres grands établissements. Donc j'avais dit que je parlerais un peu aussi des modalités de visite. Pardon. J'ai prélevé là quelques chiffres qui me paraissent aussi assez significatifs, à commencer par cette réitération de visite qui est légendaire à la BPI, c'est-à-dire que originellement, Jean-Pierre Seguin, dont je parlais tout à l'heure, le créateur de la BPI, pensait plutôt la BPI comme une bibliothèque nationale de recours. Et en fait, elle s'est très vite imposée dans les faits comme étant une bibliothèque que les usagers fréquentent très régulièrement et très assidûment. 15% en novembre 2015 des personnes interrogées, 15% déclarent venir tous les jours ou presque à la BPI. C'est-à-dire déclarent aussi parfois affronter la file d'attente très, très régulièrement. Et données qui continuent de m'étonner, hein, un tiers des usagers, 33%, déclarent ne fréquenter que la BPI. C'est la seule bibliothèque fréquentée. Et on insiste bien quand on fait passer le questionnaire. Hein. Pas d'autres bibliothèques municipales, pas d'autres bibliothèques universitaires, non, que la BPI. Et 28% des étudiants dans l'enseignement supérieur déclarent être dans ce cas. Ils ne fréquentent que la BPI et ne mettent pas les pieds dans leur bibliothèque universitaire. Ou alors n'en ont pas conscience. On fréquentait un autre espace du centre Pompidou, c'est 34% des personnes interrogées, hein, sachant que là, il s'agit de fréquentation rétrospective hein, sur les 12 derniers mois. Donc il y a quand même une complémentarité des publics pour un gros tiers, en gros, des usagers de la BPI. Ont attendu avant d'entrer, c'est 40% des personnes en 2015. On pourrait penser que ce chiffre est élevé. C'était 60% en 2003. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le temps d'attente a considérablement diminué à la BPI. Il faut dire que l'affluence est moins forte, et d'une. Et de deux, il faut dire aussi que maintenant, nous disposons d'une application numérique, Affluence, dont je reparlerai, hein, qui permet aussi d'éviter justement de se trouver englué avant d'entrer. Durée moyenne de visite, elle est de 3h34 en novembre 2015. Pour rappel, elle était de 2h08 en 1982. Et là, on va voir justement que ça, c'est une donnée qui permet d'expliquer pas mal de choses et qu'on va trouver aussi dans l'ensemble des bibliothèques de lecture publique. Fabien Plazanet parlait de l'enquête du Crédoc réalisée en 2005 qui avait montré notamment que cette durée moyenne de visite dans les bibliothèques municipales de 1995 à 2005 avait été multipliée par 3. Le fait de venir notamment travailler sur place sur ses propres documents, c'était aussi un motif de visite qui s'était généralisé dans l'ensemble des bibliothèques de lecture publique et en particulier dans les grands établissements. Sous-entendu, grands établissements, quand on passe certains seuils, hein, notamment le seuil des, par exemple, 1500 ou 2000 mètres carrés. Voilà, 12% des personnes interrogées à la BPI déclarent fréquenter également le haut-jardin de la BNF, 6% le rez-de-jardin. Et quand on dit une durée moyenne de visite de 3h34, le dimanche, c'est 4h35. Et c'est près de 5 heures pour les étudiants. Donc on comprend aussi pourquoi la BPI demeure saturée aujourd'hui. Alors, je vais parler d'une donnée aussi qui est extrêmement importante en ce qui concerne la fréquentation de cette bibliothèque. C'est la notion de projet de visite, le motif qui poussait les personnes interrogées en novembre 2015 à fréquenter la BPI. Et là, vous voyez tout de suite que, avec cette grande diagonale bleue qui traverse la diapositive de façon quasi parfaite, là, de part en part, hein, vous voyez que le motif de visite qui consiste à venir sur place pour travailler sur ses propres documents a considérablement augmenté. On passe de 9% en 1982 des personnes interrogées, donc c'était marginal, relativement marginal, à peine une personne sur 10, à 74%. En novembre 2015, c'est le motif de visite qui s'est imposé avec le plus de force. Une autre progression assez étonnante, hein, mais tout à fait facile à expliquer, c'est le fait, donc la courbe jaune, le fait de venir à la BPI avec l'intention d'utiliser le Wi-Fi de la bibliothèque. D'ailleurs, alors ça se produit moins ces derniers temps, mais quand il arrivait parfois que le Wi-Fi ne fonctionne pas à la BPI et qu'on l'annonce dans la file d'attente, on voyait les gens quitter la file d'attente et se dire « c'est pas la peine », ce qui est assez significatif en soi. Et à l'inverse, on a un motif de visite qui a diminué, mais qui demeure tout à fait présent, puisque là, on parlerait plus sur le long terme d'une forme de stabilité que d'une diminution considérable. C'est le fait de venir à la BPI pour trouver des documents précis dont on a la référence. Et on passe de 41% en 1988, première mesure sur cet indicateur, à 26% en novembre 2015. Autre donnée tout à fait représentative de l'évolution des usages et de la façon dont ils sont un peu finalisés, dont ils sont devenus très utilitaristes, 18% des personnes interrogées en novembre 82 déclaraient venir à la BPI sans idée préconçue, pour se laisser surprendre par l'offre, par les services, par le simple fait d'être là. C'est 1% seulement des personnes interrogées en 2015. Alors, ces projets de visite, il faut bien évidemment les relire en fonction du profil des usagers, en fonction du profil des visiteurs. Et pas en rester donc à ces données très moyennes que je viens d'exposer. Et on voit par exemple que travailler sur ses propres documents, c'est 93% des lycéens, c'est 86% des étudiants, mais ça n'étonnera personne. C'est tout de même 56% des actifs, donc c'est au-dessus de la moyenne aussi pour les actifs. Donc de ce point de vue-là, ils ne sont pas si radicalement différents que ça des étudiants, mais c'est seulement 14% des retraités et c'est 50% des personnes en recherche d'emploi. Et à l'inverse, trouver des documents précis, on voit que c'est plus élevé chez les actifs. Lire la presse, ça concerne malgré tout 25% des retraités. Donc il faut garder ce principe qui consiste effectivement à reventiler ces statistiques moyennes en fonction du profil des personnes interrogées pour avoir des données plus précises de l'activité. Sur la question des usages, en tout cas des usages déclarés au cours de la visite, on ne les observe pas à proprement parler, notre enquête est une enquête déclarative. Première série de données qui portent sur justement cette question de la rencontre entre l'offre et la demande. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'en moyenne 74% des personnes interrogées étaient venues avec l'intention de travailler sur leurs propres documents. 36% d'entre eux, donc près de 4 personnes sur 10 parmi celles qui ont déclaré venir avec l'intention de travailler sur leurs propres documents, auront au cours de leur visite également utilisé des documents qui sont proposés par la bibliothèque. 37% des personnes sont venues pour chercher des documents précis ou trouver une information sans référence précise. 92% d'entre eux ont trouvé ce qu'ils cherchaient, 69% tout à fait, 23% en partie. Autre donnée importante qu'on suit avec beaucoup d'attention, mais vous allez voir, dont on commence aussi à se décoller un petit peu aujourd'hui, ce qui concerne la consultation des livres, des journaux ou des revues au cours de la visite. Là, je ne parle pas d'usage rétrospectif, je parle bien d'usage le jour même. Et là, je parle de livres, de journaux et de revues, quel que soit le support, papier, microfilm ou sous forme numérique. Le fait donc de déclarer avoir utilisé un ou des livres au cours de sa visite le jour même, c'était 65% des personnes interrogées en 2003. C'était de mémoire 75% des personnes interrogées au début des années 80. C'est 38% en novembre 2015. Alors, il ne faut pas nécessairement associer le fait de consulter des livres au fait de lire des livres à la BPI. On parle bien de consultation. On peut notamment éviter de consulter des livres en consultant des informations sur Internet avant de venir ou même au cours de sa visite. Hein. La lecture d'un même livre au long cours à la BPI, en fait, est une pratique plutôt relativement rare, en fait, hein, ce qu'on voit bien d'ailleurs dans le secteur littérature. Avoir consulté des revues spécialisées ou des journaux et des magazines, hein, vous voyez que là aussi les indicateurs ont baissé, hein, ils ont même quasiment baissé de moitié, mais que malgré tout, les courbes restent relativement stables. Je vous propose de faire le même exercice que nous avons fait tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas rester à ces moyennes, et notamment à ces baisses considérables, mais de voir aussi ces indicateurs en fonction du profil des usagers. Avoir utilisé des livres au cours de sa visite, c'est un retraité sur deux. C'est 44% des actifs. Donc là aussi, c'est quasiment 1 sur 2. Et en revanche, c'est 26% seulement des lycéens, ce qui n'étonnera personne. Avoir consulté des journaux ou des magazines, c'est 31% des retraités. Et c'est 5% seulement des lycéens. Encore une fois, on voit que en fonction du profil des personnes interrogées, en fonction du profil des visiteurs, on a affaire à des filières d'usage. Hein, et que c'est plutôt sous cette forme-là qu'il faut les réexaminer si on veut une vision claire et relativement objective. La consultation, donc, les usages informatiques et l'équipement personnel numérique. La consultation des ordinateurs BPI, c'était 51% en 2003, c'est 14% en 2015. Et pourquoi ? Parce que le fait d'avoir utilisé un ordinateur personnel au cours de sa visite, c'était 4% seulement des usagers interrogés en 2003, c'est 49% en 2015. C'est-à-dire que l'indicateur est multiplié par 12. Hein, donc il faut prendre aujourd'hui en compte cette donnée. Si d'ailleurs je l'articule au fait d'être venu avec une tablette numérique personnelle, c'est 52% aujourd'hui des personnes interrogées à la BPI. Donc c'est déjà un peu plus que la moyenne. Hein. Aujourd'hui, nous avons affaire à des usagers qui, sur le plan informatique, sont très souvent, pas systématiquement, mais très souvent équipés déjà. On va voir ce qu'on peut en dire. Avoir utilisé un smartphone au cours de sa visite pour d'autres motifs que téléphoner, envoyer des SMS ou des MMS, c'était 11% des personnes interrogées en 2012, c'est 38% en 2015. Et c'est bien plus élevé chez les lycéens, et c'est encore plus élevé, c'est bien plus élevé, pardon, chez les étudiants, et c'est encore plus élevé chez les lycéens. Et s'être connecté, donc, pour finir au Wi-Fi au cours de sa visite, c'est 6 personnes sur 10 en novembre 2015. Donc le Wi-Fi est devenu un service quasi aussi important que, on va dire, la lumière, l'éclairage ou la climatisation aujourd'hui à la BPI. Et ventilons donc ces données en fonction du profil des usagers, hein, puisqu'on pourrait avoir tendance à se dire, ben voilà, ils sont déjà équipés. Est-ce la peine de maintenir un parc informatique important ? Est-ce la peine de développer ce parc informatique ? Ben, la réponse est clairement oui, encore, si on regarde en tout cas le profil des visiteurs. C'est-à-dire que les ordinateurs BPI, c'est quand même un usager classé dans la catégorie autre inactif ou autre inactive, un usager sur deux. C'est 37% des personnes en recherche d'emploi et c'est 33% des retraités. Et à l'inverse, bah oui, c'est 6% des lycéens et 7% des étudiants qui, de plus en plus, comme vous le voyez, se passent des postes informatiques de la BPI et par conséquent se passent aussi pour un certain nombre d'entre eux, un grand nombre d'entre eux, de l'interrogation du catalogue informatisé de la BPI, du moins avec les ordinateurs de la BPI. Et pour terminer, je me suis intéressé à une sous-population particulière hein, qui concerne les usagers qui viennent à la BPI équipés d'ordinateurs et de tablettes qui leur appartiennent. Et j'ai fait des comparaisons entre les indicateurs qui étaient produits sur la question des nouveaux services qui sont proposés à la BPI, un certain nombre de nouveaux services en tout cas, et ces mêmes usagers donc équipés d'ordinateurs et de tablettes, et de ce qu'ils font aussi au cours de leur visite avec leurs ordinateurs et leurs tablettes. Parce qu'il est bien évident qu'aujourd'hui, on a à s'intéresser à ce qu'ils font dans le cadre de la BPI, ce qu'ils font dans nos murs. Donc 38% d'entre eux déclarent utiliser l'application Affluence hein, qui permet de prendre la mesure de la file d'attente et de la pression à la BPI. Hein. 17% disent avoir utilisé des ressources numériques au cours de leur visite. Alors on va voir avec leur poste ou avec des postes informatiques de la BPI. 13% justement déclare avoir utilisé le Wi-Fi documentaire. Alors le Wi-Fi documentaire, c'est quoi ? C'est une offre très récente à la BPI hein, qui date en gros de l'automne 2015, qui permet, via des autorisations qui sont passées avec des éditeurs, qui permet sur son propre matériel informatique, ordinateur personnel, tablette numérique tactile, smartphone quand c'est possible, d'accéder à un bouquet de revues électroniques, de bases de données et d'autres services de ce type. Donc on appelle ça le Wi-Fi documentaire dans notre jargon. C'est bien évidemment pas de cette façon-là qu'on a intitulé ce service dans le questionnaire. On parlait bien d'une offre de revues et de magazines, voire de ressources électroniques qui étaient accessibles via son propre matériel informatique. C'est déjà 13% des personnes interrogées alors qu'on n'a pas donné de publicité à ce service et qu'il était assez récent quand l'enquête a été réalisée. Donc déjà, plus d'une personne sur 10 quand elle est équipée en tout cas de matériel. 5% en revanche d'entre eux déclarent utiliser, ils sont beaucoup plus nombreux à connaître, mais 5% d'entre eux seulement déclarent utiliser le Facebook BPI et 2% seulement le fil Twitter BPI. Donc sous-utilisation notoire. Statistiques qui sont communes à ce que la BNF enregistre sur ses propres services numériques. Et à l'inverse, donc ces mêmes usagers équipés d'ordinateurs et de tablettes, 86% d'entre eux ont navigué sur Internet au cours de leur visite, bien sûr, hein, donc une écrasante majorité. 60% ont utilisé un traitement de texte ou un tableur, hein, Microsoft Office ou OpenOffice. 37% sont allés sur les réseaux sociaux, hein, donc c'est quand même relativement important. Alors, on pourrait se dire que ce n'est pas si important que ça, mais il faut se dire que beaucoup se disciplinent aussi hein, et s'interdisent parfois les réseaux sociaux quand ils viennent à la BPI, ou tentent de s'interdire les réseaux sociaux. Mais je mets en regard ce 37% évidemment avec le sous-usage manifeste hein, de Facebook ou de Twitter BPI. Et 28% auront écouté de la musique avec leur propre matériel, ce qui me paraît aussi assez intéressant. Voilà pour cette revue d'ensemble rapide. Quelques conclusions hein, tout aussi rapide. Pour dire une chose importante, c'est que cette revue d'ensemble donc des usages pratiqués dans la bibliothèque intramuros laisse de côté, bien évidemment, tous les usages du site web, voire des sites web de la BPI, hein, puisque aujourd'hui, on a plutôt 3 sites web qu'un seul, hein, Balise, le site institutionnel et le site professionnel. Donc le tableau que je vous ai présenté ici, bien évidemment, ne prend pas en compte aussi ces usagers BPI qui parfois ne mettent pas les pieds dans la bibliothèque. Donc il faudrait aussi articuler ces données avec celles qu'on pourrait produire, notamment sur les usagers du site web. Hein, la dernière enquête étant déjà assez ancienne, hein, conduite par Laure Bourgeux, qui est présente aujourd'hui d'ailleurs, et qui n'a pas été réactualisée, mais qui mériterait de l'être aujourd'hui pour qu'on puisse cadrer un petit peu mieux donc ce tableau des usages au sens le plus complet possible de la BPI. comme vous l'avez vu, mais comme vous le vivez aussi dans vos établissements, hein, qu'il s'agisse de bibliothèques municipales, alors cette fois-ci grandes, moyennes, petites, qu'il s'agisse de bibliothèques universitaires, qu'il s'agisse d'autres grands établissements nationaux, hein, les usages qui se sont affirmés avec le temps, c'est vraiment ce qui concerne le fait de venir travailler sur place sur ses propres documents, en utilisant ou pas les services et les documents que proposent les bibliothèques. C'est l'allongement de la durée de visite. C'est le fait qu'aujourd'hui, effectivement, les usagers sont de plus en plus des séjourneurs, hein, comme on avait commencé à les appeler au début des années 70, et qu'ils utilisent toute la gamme possible des services qui leur sont proposés. Prendre un café sur place, lire la presse, regarder une exposition, assister à une animation culturelle, bien sûr. Je rappelle, et c'est tout à fait logique, hein, quand on voit les évolutions sociales auxquelles nous sommes confrontés, qu'aujourd'hui, les bibliothèques accueillent de plus en plus des usagers qui trouvent ailleurs les informations dont ils ont besoin, en dehors des bibliothèques. C'est normal, c'est logique, c'est simple, c'est tellement évident. Mais qui viennent malgré tout, pour une grande partie d'entre eux, et là, je pense aux lycéens, par exemple, qui vont commencer à fréquenter de plus en plus assidûment nos bibliothèques, hein, qui viennent pour produire un effort particulier sur place et qui viennent pour travailler sur place, sur leurs propres documents, en groupe, souvent, et donc, comme je le disais tout à l'heure, équipés. Voilà, ce qui nous invite, je pense, mais ça serait peut-être intéressant d'en discuter ensemble au cours du débat, peut-être à décentrer aussi un peu nos questionnements et donc à faire évoluer nos outils de production de données et d'indicateurs. Et passer notamment peut-être vers un questionnaire qui serait plus orienté usager. Je pense avoir montré aujourd'hui que, effectivement, nos questionnaires sont encore aujourd'hui beaucoup orientés institutions. Ce que les institutions proposent en matière de collection et en matière de services et qu'elles souhaitent évaluer avec des indicateurs qui portent sur des questions d'usage le jour même ou d'usage rétrospectif. Moi, je pense que nos questionnaires ont intérêt à s'intéresser de plus en plus à l'écologie générale de nos usagers, sachant que la bibliothèque, elle fait partie à un moment donné de leur cheminement et de leur existence, d'une brique dans, évidemment, un espace qui est beaucoup plus d'accès à l'information, de traitement de l'information, dans un espace de loisirs qui est beaucoup plus large et qui mérite d'être considéré dans son ensemble. Et donc, il faudrait, à mon avis, bien évidemment, produire d'autres indicateurs et notamment observer des impacts cognitif. Alors, il sera. C'est intéressant de voir, Fabien Plazanet utilisait beaucoup cette formule d'impact dans son intervention. Moi, je commence à en parler aussi. Vous savez qu'il y a des travaux en cours avec l'enquête pilote qui est lancée dans le Val d'Oise sur les impacts des bibliothèques municipales, impact économique, impact sociaux et impact culturel. À venir, l'annonce a été faite au congrès de l'ABF en juin 2015 dernier à Strasbourg. Une enquête lancée par l'ABF conjointement avec le ministère de la Culture sur les impacts des bibliothèques à l'échelle nationale. Effectivement, je crois qu'on doit se préoccuper de plus en plus de ces impacts, mais pas seulement des impacts, on va dire, économiques, sociaux et culturels, mais aussi les impacts cognitifs. Qu'est-ce que ça provoque, qu'est-ce que ça induit, qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce que ça fabrique le fait de venir dans une bibliothèque pour travailler sur place, sur ses propres documents ou pour consulter des ressources, qu'est-ce que ça induit à l'instant T, mais qu'est-ce que ça induit aussi dans le temps. Donc je pense que nos recueils d'informations méritent aussi à la fois la question de l'impact immédiat, mais aussi peut-être de l'impact différé, de l'impact sur une durée un peu plus longue. Voilà, donc je pense qu'il faut bien évidemment aussi contribuer de plus en plus à valoriser des données qualitatives pour bien comprendre ce qui se passe, ce que ça fait, quels effets sont produits et quelles sont les représentations aussi que les usagers ont de leurs usages. Je reviens sur cet indicateur de consultation de livres qu'improprement nous appelions parfois un indicateur de lecture. D'ailleurs, on parlait de lecteur en parlant des usagers de la BPI, ce qui, pour le coup, par certains côtés, est de plus en plus impropre aujourd'hui. Il est bien intéressant de voir que si je restitue cet usager dans son écologie intégrale, c'est un lecteur, à un moment ou à un autre, lecteur de ses propres notes d'ailleurs, hein, parfois, mais lecteur aussi en dehors de la bibliothèque. Et donc, je crois qu'il ne faut pas se faire de fausses idées sur cette question. Et puisqu'il s'agit de valoriser des données qualitatives, moi j'étais vraiment très agréablement surpris par la lecture du livre blanc qui vient de paraître, hein, que vous pouvez trouver sur le site de l'AFNOR, hein, qui porte donc sur cette nouvelle norme 16439. J'adore ce... Après la norme 2789, la norme, je ne sais plus comment s'appelait l'autre, 11660, là vous avez la 16439, mais qui fait date, je trouve, puisqu'elle justement, elle incite à s'intéresser aux impacts à la fois économiques, mais aussi aux impacts sociaux et aux impacts culturels, à s'intéresser aussi à la satisfaction, bien sûr, des usagers, et à valoriser, en plus d'un recueil de données quantitatives, des recueils de données qualitatives qui permettent aussi de mieux comprendre ce qui se passe et sans doute de produire de nouveaux types d'indicateurs. Plus difficile à produire quand il s'agit d'indicateurs qualitatifs. Voilà, elle s'appelle « Qu'est-ce qui fait la valeur des bibliothèques ?» Mais vous allez en entendre parler beaucoup, hein, puisque le livre blanc donc, est accessible en ligne aujourd'hui et une journée d'études sera organisée le 24 mars prochain, conjointement par l'ENSIB, la DBU et la Bibliothèque publique d'information. Voilà, donc consultez le livre blanc.
Merci Christophe. Des questions, des remarques, des observations ?
Merci.
Bonjour. Je trouve que c'est vraiment très très intéressant ces études sur le long terme. C'est vrai que la bibliothèque municipale de Lyon en fait aussi de façon un peu différente. Hein, elle a ce qu'elle appelle un baromètre avec un questionnaire auto-administré. Bon, ça n'est pas... Voilà. C'est beaucoup plus difficile pour des bibliothèques de taille moyenne. Moi, je suis responsable de la bibliothèque de Chambéry. Et à part Lyon et la BPI, je ne connais pas, il y en a peut-être d'autres, hein, des bibliothèques qui disposent de séries comme ça longues. Et je pense en fait qu'on n'en a pas vraiment les moyens. Nous, on est une ville qui a eu beaucoup de moyens, qui a beaucoup investi dans la lecture publique. On a fait des enquêtes ponctuelles, mais on n'est pas capable quoi, de faire quelque chose sur le long terme. Donc, est-ce que ça ne serait pas, je crois que je vous ai déjà posé la question, mais j'ai un naturel assez tenace, et peut-être qu'elle s'adresse plutôt à M. Plazanet d'ailleurs, mais est-ce que ça ne serait pas intéressant de travailler au niveau national sur un modèle d'enquête réutilisable par une bibliothèque à travers le temps et également par des bibliothèques en parallèle, et peut-être justement y intégrer cette notion d'impact. Enfin, voilà.
Alors, figurez-vous que l'ABF s'est emparée de cette question et travaille effectivement à, mais c'est complexe, hein, à la production d'un référentiel, hein, qui permettrait effectivement d'avoir une base de questionnement commune. Sachant cela dit que, voilà, vous l'avez pointé vous-même à juste titre, hein, en fonction des moyens dont on dispose, des moyens financiers ou des moyens humains, de toute façon, on ne pourra pas faire les mêmes choses d'un terrain à l'autre. Alors, malgré tout, moi, j'ai souvent l'occasion de lire les résultats d'enquêtes qui sont réalisés par des bibliothèques qui prennent en charge cette question de l'évaluation pardon, et des questionnaires destinés au public et qui réalisent des enquêtes tout à fait intéressantes avec des questionnaires auto-administrés qui sont gérés en interne et qui sont d'ailleurs parfois gérés avec soit des logiciels gratuits disponibles en ligne, soit tout bêtement des feuilles de calcul Excel pour faire des calculs de moyenne assez simples, mais qui permettent malgré tout, hein, quand on fait l'effort de produire un questionnaire stable, d'être répété à travers le temps. Parce que l'intérêt de ces mesures, vous l'avez dit vous-même, et c'est là que l'enjeu est très fort, c'est de leur donner un aspect barométrique. Voilà. Donc, ce n'est pas l'idéal, hein, le questionnaire auto-administré, on sait qu'il a des failles, hein, puisque justement on ne peut pas contrôler l'échantillon comme on peut le contrôler avec d'autres techniques de sondage, mais c'est malgré tout mieux que rien. Mais je suis entièrement d'accord avec vous, là il y a véritablement un enjeu.
Merci. Je suis Olivier Roumieux, je travaille à la Bibliothèque des sciences et de l'industrie. Vous l'avez dit vous-même, il manque les données concernant le web. Vous avez parlé d'une étude. Il y a déjà eu une étude faite là-dessus, récente, il y a quelques années. J'ai pas bien compris si.
Ah, pas vraiment récente, non, justement, mais qui mériterait d'être actualisée. C'était l'or. Où est l'or ? C'était il y a combien de temps ? C'était 2008 ? 2005 ?
Ah oui, d'accord.
Oui, c'est ça, voilà, ouais, tout à fait. Et c'était un questionnaire en ligne qui, pour aller vite, hein, donc c'était un questionnaire en ligne qui était adressé donc aux personnes qui utilisaient le site web, hein, qu'il s'agit d'ailleurs d'usagers occasionnels ou d'usagers réguliers. Et comme pour Libqual et de nombreuses autres enquêtes de ce type en ligne, on avait donné la possibilité de gagner un lot aux personnes qui répondaient, ce qui nous avait permis quand même d'obtenir un échantillon de près de 1000 personnes interrogées qui était tout à fait solide.
Parce que ce qui est assez frappant dans votre étude, enfin, du point de vue en ligne, c'est évidemment, vous l'avez dit encore une fois, la sous-utilisation des Twitter et Facebook qu'on met à disposition. Et ce qui manque, enfin moi ce que je ne trouve pas, c'est une espèce d'étude de, est-ce qu'il y a un continuum, est-ce qu'il faut qu'on continue à travailler sur cette idée du web, enfin de la relation entre le web et le surplace. C'est vrai que là, par exemple, il n'y est pas du tout. Est-ce qu'il est prévu, par exemple, d'intégrer une question dans le questionnaire sur est-ce que vous avez préparé votre visite grâce au web ? Est-ce que vous allez continuer votre visite grâce au web ? Enfin, toutes ces choses qu'on manipule de façon un peu abstraite depuis des années, en se disant ça va servir à ça, et sur lesquelles on a finalement très, très peu de réponses. Et on reste, en 2015, sur des fonctionnements très séparés, des gens qui viennent, des gens en ligne pour lesquels on n'a pas eu les moyens humains d'assez bien segmenter, en fait, de savoir ce qu'ils font en ligne, finalement. Enfin, on sait qu'ils consultent le catalogue en ligne, on sait qu'ils... Enfin, moi, je parle pour, en tout cas, ma chapelle, qui vont regarder les services abonnés. Mais finalement, tout ce qu'on a développé un petit peu d'un nouveau modèle où on mélange le en ligne et le sur place, finalement, on ne sait pas vraiment les usages qui en sont faits. Et pour moi, c'est vraiment une piste intéressante parce que Il y a quand même eu des développements. Vous, à la BPI, il y a Balise, qui est quand même assez récent, qui est quand même l'idée de créer un web magazine par une bibliothèque. C'est un postulat qui peut se discuter, mais, enfin, je veux dire, même en termes d'usage, hein, si on reste centré sur les usages. Et donc, je pense que là, il y a tout un champ, parce que derrière, il y a quand même aussi des forces de travail, il y a des charges.
Bien sûr.
Et voilà, il y a tout un champ qui, finalement, aujourd'hui, on a très, très peu de données.
Alors, plusieurs réponses à votre remarque. Bien mesurer ce que font les usagers avant leur visite à la BPI, on ne l'a pas fait cette année en novembre 2015, parce qu'on ajoute des questions au questionnaire et par conséquent, parfois, on retranche certaines questions. Mais on l'avait fait en novembre 2012. Et alors, on n'avait pas fait, et je retiens la suggestion parce que je la trouve très intéressante, pour le moment, on n'a pas fait d'enquête sur les suites données à la visite parce que ce n'est pas très facile à faire. Et je ne pense pas que ce soit le questionnaire qui soit la meilleure méthode appropriée pour obtenir ce type de données, mais je pense qu'on le fera. Et donc, on a vu qu'effectivement, les gens préparaient massivement leur visite avant de venir en consultant le site web, pas pour consulter le catalogue en priorité, mais pour consulter justement tous les outils qui permettaient de préparer leur visite, notamment la webcam qui permettait de jeter un œil sur la file d'attente ou ce type d'indicateur. Alors, nous avons dans les tuyaux une enquête à venir, mais plutôt dans la deuxième partie de l'année 2016, voire pour début 2017, une enquête sur les usagers du web magazine. Voilà, donc ça, c'est prévu, hein, bien évidemment. Et, mais Muriel pourra en parler bien mieux que moi, en ce moment, conjointement avec le ministère de la Culture, avec le service Livre-Lecture, nous pilotons un programme de recherche sur la place des bibliothèques territoriales sur les réseaux sociaux numériques. Mais là, encore une fois, je ne peux pas vous donner les sites sont à peine choisis. Donc, nous n'avons pas de retour pour le moment sur cette enquête, mais vous en aurez quand la synthèse sera publiée, et si tout va bien, donc dans la nouvelle collection dont parlait Jean-Arthur Kreff, aux presses de l'ENSIB, dans la collection Papier BPI.
Oui, bonjour. Alors, je change un petit peu de sujet, mais moi, je travaille dans une bibliothèque universitaire qui essaye de voir un peu la bibliothèque comme lieu de vie aussi, comme lieu d'animation, donc qui propose en partenariat avec d'autres services de l'université des animations culturelles, des concerts, etc. Je crois que la BPI le fait aussi. Et du coup, je m'interroge sur la rencontre entre le projet de l'usager qui est une recherche de cadre de travail, hein, dans une grande majorité de cas, on l'a vu, et puis ces espèces de perturbations de l'objectif que vont introduire les bibliothécaires avec des animations, des expositions, voilà. Donc je voulais savoir si vous aviez des retours dans le cadre des enquêtes sur cette rencontre entre la recherche du cadre de travail et la perturbation introduite par le bibliothécaire.
Alors pas dans le questionnaire. Le questionnaire nous permet de savoir que 23% des personnes interrogées en novembre 2015 déclarent avoir déjà fréquenté une exposition dans la bibliothèque et notamment au cours des trois dernières années, donc des expositions récentes. C'est presque un quart des personnes interrogées, ce qui est quand même assez élevé, je trouve. Alors, on a des données qualitatives en ce qui concerne justement cette perception des animations de la BPI, notamment des happenings, puisqu'on en fait beaucoup aussi avec le centre, où parfois il arrive qu'il y ait des animations pendant les heures d'ouverture in situ dans les salles de lecture elles-mêmes. Hein. Alors, des animations sur le chocolat, par exemple, sur ce genre de choses. C'est à la fois perçu avec bienveillance par un certain nombre de lecteurs qui disent bah, c'est la BPI, quoi, c'est le centre Pompidou. Mais là, je n'ai pas de données chiffrées à te donner. Hein. C'est quand même très mal vu par la plus grande partie des usagers qui viennent pour travailler sur place sur leurs propres documents et qui recherchent une ambiance de travail relativement, optimale. On va dire, même s'ils savent que la BPI, c'est aussi une bibliothèque dans laquelle il y a du bruit, et ça fait partie de l'ambiance. Donc il y a parfois un problème de cohabitation, c'est manifeste.
Pas d'autres questions.
Mais ça me permettra juste de pas rester sur cette note, mais d'essayer aussi de prendre un petit peu de recul et de hauteur en me disant, moi évidemment en tant que sociologue, j'ai tendance à développer un discours qui consiste à dire observons ce qui se passe et accompagnons le changement et les évolutions. Mais il y a aussi une partie de moi qui de plus en plus aussi tend à dire mais on peut aussi à certains moments ne pas accompagner certaines évolutions, à faire d'autres propositions. Alors, il ne faut pas évidemment engager un bras de fer qui serait tout à fait stérile, hein, mais je pense qu'on a aussi des volants qui nous permettent à la fois d'accompagner, mais aussi parfois de résister à d'autres tendances. Donc je renvoie aujourd'hui aussi la question sur la question de la visibilité de nos collections, et notamment la visibilité, la profondeur de nos ressources électroniques, hein, qui ne sont pas préhensibles. Hein, et là, je pense qu'il y a des enjeux de médiation et d'animation documentaire qui sont très importants.
Ah, peut-être, je ne sais pas si on a le temps.
Moi, je voulais juste rebondir sur la notion de lecteur dont tu as parlé, Christophe, parce que donc, moi aussi, je suis en bibliothèque universitaire et on observe de plus en plus, en fait, une grande évolution des usages, de la vérification de sources, les étudiants viennent pour picorer de l'information, surtout pour travailler sur leurs documents. Et donc, nous, on a essayé de les observer pour voir ce qu'ils faisaient. Donc, ils alternent entre des pratiques privées, en fait, d'envoi de SMS, d'aller sur Facebook, etc. Toutes sortes de tâches multiples qui se succèdent, qui se cumulent. En fait, il y a vraiment de nouveaux usages qu'il est très difficile à la fois de catégoriser, de qualifier. Et donc, je me demandais si, en fait, un travail vraiment sur la bibliothèque comme lieu, oui, mais comme lieu pour quoi faire, qu'est-ce qu'est devenu le lecteur, Et est-ce que ce n'est pas là-dessus aussi qu'on va pouvoir justifier l'existence des bibliothèques auprès des tutelles? Parce que nous, on voit aussi une baisse vertigineuse de la consultation. Et nos responsables nous disent bah, les étudiants n'ont plus besoin que de chaises, de tables et de Wi-Fi. Et ils nous proposent d'agrandir la bibliothèque n'importe où. Une salle de classe pourrait faire effet. Et on a beaucoup de mal à justifier du caractère vraiment indispensable de la bibliothèque comme lieu avec des livres, même si on ne lit pas. Et donc, mais voilà, comment faire toute cette chose difficile et comment qualifier le lecteur d'aujourd'hui, quoi.
Ah oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire que moi, souvent, on me dit aussi, mais ce dont ont besoin les usagers aujourd'hui, les jeunes en particulier, les populations scolaires vraiment aussi en priorité, c'est une salle de travail éclairée, chauffée avec un distributeur de café et de coca. Eh bien, pas du tout. Ça ne marche pas comme ça du tout. Parce qu'en fait, quand on fait du qualitatif, justement, on se rend compte que la bibliothèque fait vraiment un tout, pour eux, un tout qui est très significatif. Et que si on commence à retirer une brique, hein, c'est comme l'uranium enrichi dans les centrales électriques. Hein, si vous retirez la pile, il ne se passe rien, quoi. Et du coup, c'est un lieu qui sera nettement moins intéressant, attirant, utile. Et donc, il y a vraiment cette notion de tout et ce sentiment d'être remorqué par les autres qui travaillent, mais parce qu'on est aussi dans une ambiance particulièrement livresque, informationnelle, codée, enculturée, hein, on va dire, par certains côtés. Après, il faut aussi, encore une fois, on a tendance à survaloriser des indicateurs quantitatifs qui sont frais et qui sont construits de manière immédiate. Quand on s'intéresse aux données rétrospectives, on s'aperçoit que tel étudiant qui n'a pas consulté d'encyclopédie aujourd'hui, qui ne s'est pas adressé au personnel aujourd'hui, qui n'a pas assisté à une animation culturelle aujourd'hui et qui aura travaillé toute la journée sur ses propres documents parce que le pauvre, il a un partiel le lendemain et de toute façon, il faut bûcher. Au cours de l'année, au cours des visites précédentes, il aura fait ci, il aura fait ça. Et en cumul, sur la personne, sur l'individu, on a une richesse d'utilisation et d'exploitation de la bibliothèque qui est aussi souvent phénoménale. Donc ça aussi, il faut le valoriser. Hein. Donc le couple minorité-majorité dont je parlais tout à l'heure, qui mérite d'être réinterrogé, mais aussi ce couple qui est extrêmement important et pas souvent exploité et analysé, c'est le couple instantané-différé.
Bonjour. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit une collègue concernant les perturbations des animations culturelles. Est-ce que dans vos enquêtes, vous aviez auparavant posé des questions sur justement l'attrait de la BPI par rapport à l'ensemble du site lui-même, Beaubourg, même la place, la piazza, etc. Est-ce que vous avez des données? Parce que justement, ça m'interroge de sentir que il y a des collègues qui... Et puis, il y a une perception des usagers comme quoi l'animation culturelle, c'est une perturbation parce que, sauf méprise, je pensais que c'était l'une des raisons principales pour lesquelles on avait créé ce centre.
Ouais, il faudrait... C'est pas difficile de répondre de manière très synthétique à votre question. Il y a la perception que la BPI fait partie d'un tout culturel qui est très dynamique, très 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 animé, mais il y a aussi parfois une appropriation et une défense de la BPI comme étant aussi un endroit dans le centre, mais à part du centre, et que l'animation c'est dehors, quoi. Il y a même des gens parfois qui viennent quand on fait du service public, qui viennent râler parce qu'il y a de l'animation sur la piazza. Hein, et qui nous demande d'intervenir parce qu'il y a une fanfare sur la piazza. Oui, mais pour vous dire à quel point aussi... à côté de ça aussi, ce qu'on mesure de façon plus fine et plus qualitative aujourd'hui, puisqu'il y a des opérations conjointes centre-Pompidou-BPI pour faire en sorte qu'il y ait des passerelles d'un endroit à l'autre, et donc des mouvements de public d'un endroit à l'autre. Et on fait en sorte aujourd'hui d'accompagner notamment les fameuses visites 15 minutes chrono du centre Pompidou. Et c'est assez intéressant de voir Bon, il ne faut pas que je surinterprète non plus des résultats qui commencent seulement à arriver, mais qu'il y a aussi une forme certains de nos visiteurs, certains de nos usagers, en particulier un certain nombre d'étudiants, sont très intimidés par l'offre du centre et par les expositions temporaires, voire par les collections permanentes. Il y a aussi, si vous voulez, cette étanchéité qui existe. Alors, ça ne répond pas à votre question, mais c'est pour vous montrer aussi qu'il y a à la fois des deux, quoi. Il y a à la fois complicité, complémentarité, mais aussi étanchéité sur pas mal de plans.
Bon, bah sur ces belles paroles sur la BPI, Muriel Amar, vous nous présentez une autre enquête de la BPI qui tente d'analyser les réponses apportées par les bibliothécaires en bureau d'information.